Convaincu que ce message sera pour vous une grande source de bénédiction et de motivation, sans plus tarder, nous vous laissons à l'écoute de la révérende M. Piebi Patricia.
On ne peut pas être productif si nous n'avons pas l'objectif d'être productif. Vous ne serez jamais un chrétien compétent si la compétence du christianisme n'est pas pour vous un objectif. Vous ne pourrez jamais être un chrétien vivant dans l'abondance si les fruits ne sont pas votre objectif. Vous ne pourrez jamais réussir si la volonté de Dieu n'est pas pour vous un objectif. Parce que l'accomplissement de la volonté de Dieu se traduit par la capacité à produire du fruit.
Message numéro 1.
La vision, l'élément qui conduit vers la productivité. Je répète comme sous-thème, la vision, l'élément qui conduit vers la productivité. Et pour ça, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 15, 16. Je vais vous faire la lecture de ce passage dans la version Parole de vie. Nous aurons l'habitude d'utiliser ce passage parce qu'il a son rôle à jouer. Nous aurons la possibilité de revenir sur certains passages, autres que celui-là, parce qu'ils ont leur raison d'être par rapport aux explications ou encore aux enseignements que nous voulons vous donner relativement au fait de porter du fruit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais faire la lecture. Jean 15, 16, version Parole de vie. Il est dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous voulez lorsque vous le lui demanderez en mon nom. » Ce passage que nous connaissons tous nous amène à réaliser une vérité importante, c'est que Dieu nous a choisis. Dieu encore nous a établis dans certaines versions. Pourquoi? Pour un but précis. J'aimerais durant ce temps que vous réalisiez que porter du fruit n'est pas un fait banal, que porter du fruit n'est pas la mode du mois d'avril ou peut-être du mois de mai, mais que porter du fruit est d'une importance capitale. Parce que c'est le fait de porter du fruit qui va déterminer, oui ou non, vous serez dans le sein de Dieu ou pas. Dieu attache beaucoup d'importance au fait de porter du fruit. C'est porter du fruit, là, ou encore engendrer des fruits. Être capable de manifester des fruits, parce que nous allons découvrir ce que ça veut dire exactement. C'est ce qui est à la base de notre existence. C'est ce qui nous fait. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous sommes chrétiens. Que la plupart d'entre vous ce matin se retrouvent dans cette église et prennent le temps de m'écouter, prennent le temps d'analyser la parole qui va être donnée. Que ce ne soit pas pour vous un mot, mais que ce soit pour vous aujourd'hui un objectif réel. Alors, comme je le disais, quand nous lisons le passage de Jean 15, 16, on réalise un fait important sur lequel Dieu s'attarde, parce que vous allez voir que Dieu va prendre tout un chapitre. Et évidemment, il y a d'autres éléments qui vont ressortir dans la Bible, mais Jésus va prendre tout un chapitre pour nous parler de notre obligation à porter du fruit. Et en général, ce chapitre par excellence, c'est le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Et vous allez vous rendre compte que si Dieu peut prendre tout un chapitre pour parler du fruit, c'est que pour Dieu, c'est important. Quand vous lisez la Bible et que des mots reviennent sans cesse, ça veut dire qu'il y a lieu de s'arrêter un tout petit peu sur ces mots. Ces mots ont une importance, ont leur raison d'être. La Bible, comme on le sait très bien, n'a pas d'abord été conçue pour les non-convertis, mais la Bible a d'abord été conçue pour nous. La Bible nous est présentée comme étant notre testament et comme étant la volonté de Dieu. Donc tout ce qui est écrit nous concerne. Tout ce qui est écrit est important pour chacun d'entre nous. Et si on ne prend pas cela au sérieux, alors on va passer à côté de la grâce. On va passer à côté de la volonté parfaite de Dieu. Dieu dit dans Jean 15, 16 qu'il nous a suscités dans un seul but, porter du fruit. Il nous a suscités, selon la version Parole de vie, pour produire du fruit. De sorte que tout ce que vous demanderez au nom du Seigneur, cela vous soit accordé. En d'autres termes, Dieu nous a créés tous afin que nous soyons capables d'engendrer quelque chose dont il a besoin ou encore dont il aura besoin. Et pour cela, j'aimerais que nous ouvrons encore notre Bible dans Luc 13. Nous allons lire les versets 6 à 7. C'est une parabole, c'est une histoire que nous connaissons tous, mais qui va peut-être venir régulièrement parce qu'elle est très illustrative. Alléluia. Luc 13, 6 à 7. C'est la parabole du figuier. Disons l'une des paraboles du figuier. La Bible dit, il est dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Il termine en disant, coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est une histoire que nous connaissons tous. Voilà un monsieur qui a une vigne dans laquelle il plante un figuier. Et 3 ans durant, il vient, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de manger ses figues. Parce qu'on ne plante pas un aliment pour qu'il soit là pour décorer la terre. On plante parce que nous devons le manger. C'est différent des fleurs d'appartement, des fleurs pour venir égayer nos yeux et égayer le jardin. Mais lorsqu'on plante un arbre fruitier, ce n'est pas pour qu'il vienne égayer le jardin, même s'il a aussi un autre objectif, celui de nous faire un peu d'ombre. Mais son objectif principal n'est pas l'ombre. L'objectif principal, c'est de porter du fruit. Et du fruit qui a aussi un objectif, l'objectif d'être mangé et de répondre à la faim de chacun d'entre nous. Et là, le propriétaire de la vigne va, 3 ans durant, il va dans sa vigne, il se rend compte que le figuier qu'il a planté ne lui apporte rien. Alors il voit le vigneron et il lui dit, il est temps d'enlever cet arbre de mon terrain parce qu'il est inutile. Il ne sert à rien. Alors la représentation de ce propriétaire est bien sûr Dieu. Et le figuier qui est là est une représentation d'un homme. Parce que vous savez, la Bible utilise beaucoup d'images, beaucoup d'allégories, beaucoup d'images. Et alors Dieu, depuis 3 ans, a planté quelqu'un ou encore a sauvé une personne. Et 3 ans durant, il vient vers cette personne et il se rend compte que cette personne n'est pas productive. Elle ne lui apporte rien. Cette personne ne fait rien. Quand on voit cette personne, on n'est pas attiré par cette personne parce qu'elle n'apporte rien. Elle ne sert à rien. Alors Dieu décide et il dit, il est temps que je retranche cette personne de mon effectif. Il y a quelques mois de cela, nous avons appris une chose, c'est que le fait d'être chrétien ne fait pas de nous des personnes productives et valables aux yeux de Dieu. Si on n'est pas productif, alors au lieu d'être véritable chrétien ou enfant de Dieu, on devient une statistique. Je crois que nous l'avons très bien saisi. Et cette vérité demeure jusqu'alors. Tant qu'on n'est pas productif, on est une statistique. On est un chiffre qu'on accumule à d'autres chiffres pour démontrer qu'il existe quand même des gens qui semblent apparemment s'intéresser à Dieu, mais pour qui Dieu n'est pas l'objectif principal. Et la même vérité se vérifie aujourd'hui. Dieu n'a pas besoin des personnes qui ne lui servent à rien. Alléluia. Dieu a créé le figuier pour que celui-ci lui donne des figues. Il n'a pas planté pour que celui-ci embellisse sa vigne. Il a planté parce qu'il voulait manger des figues. Il avait un besoin. Il voulait manger des figues. Et vous saviez, à l'époque de Jésus, les figues avaient un rôle important. C'était un aliment principal et c'était l'un des aliments que les athlètes utilisaient le plus. Parce que dans les figues, il y a toutes les ressources nécessaires à tous les sportifs. Les figues en Israël étaient un repas complet. Et donc, quand quelqu'un plantait un figuier, s'il s'attendait à avoir un repas complet, s'il n'avait pas de pain de poisson ou autre, il savait qu'il y avait la figue qui allait lui donner tout ce dont son corps avait besoin. Et particulièrement pour les personnes athlétiques, elles savaient que même si elles ne mangeaient pas, tout ce dont elles avaient besoin, ils se retrouvaient dans les figues. Ce qu'aujourd'hui, nos athlètes recherchent au travers des drogues, en se dopant, tout se trouve dans la figue. Une étude a démontré qu'au lieu de se doper, il vaut mieux aller prendre une figue. Parce que tous les éléments nécessaires aux muscles, à son bon fonctionnement, quel que soit le sport que nous pratiquons, se trouvent dans la figue. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Alors, ce propriétaire se dit, si je n'ai pas à manger, au moins je me contenterai des figues. Et j'aurai un repas complet et je me sentirai à l'aise. Je ne vivrai pas ou je ne souffrirai pas de carence quelconque. Malheureusement, le figuier ne donne rien. Il est là, c'est grave. La Bible nous dit dans Proverbe 16, 4, le Seigneur a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Je vais vous relire cette phrase sous plusieurs versions. C'est pour vous amener à comprendre quelque chose. Selon la version Parole de vie, il est dit, le Seigneur a tout fait pour un but bien précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Selon la version français courant, il est dit, le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Même les méchants pour le jour du malheur. Selon la version Ostval, la Bible dit, l'Éternel a fait toutes choses en sorte qu'elles répondent l'une à l'autre. Retenez bien les expressions. L'une à l'autre. Et même le méchant pour le jour de la calamité. Et la dernière version intéressante, c'est celle d'Arbi. L'Éternel a tout fait pour lui-même. Et même le méchant pour le jour du malheur. Quand on lit toutes ces versions, qu'allons-nous retenir? On va se rendre compte que une chose est certaine, c'est que Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait premièrement pour lui-même. Deuxièmement, il le fait pour un but précis. Troisièmement, pour que la chose qu'il a créée réponde à un besoin. Donc, quand Dieu crée le figuier, il le crée d'abord pour lui. C'est sa propriété, c'est lui qui l'a planté. Donc, le figuier devrait savoir qu'en poussant, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour mon propriétaire. Deuxième élément, si j'ai été conçu, c'est pour un but spécifique, celui d'engendrer des figues. Et le troisième élément qui consiste à répondre, c'est celui de combler la faim. Cela veut dire entre autres que chaque chose que Dieu amène à l'existence a derrière son existence un objectif spécifique, a un destin spécifique, a un rôle spécifique. Alléluia. Si les choses alors sont faites ainsi, on comprend pourquoi le propriétaire du figuier s'est fâché. On comprend pourquoi il était mécontent. Parce que selon la norme biblique, tout ce que Dieu fait a l'obligation, je ne dis pas le choix, a l'obligation de produire. C'est là alors on rentre dans l'étude ou la découverte de plusieurs principes. Le premier principe que nous apprenons déjà de cette petite histoire, c'est que Dieu n'aime pas l'improductivité. Parce que toute chose a été créée pour produire, sinon engendrer. Quand vous dormez, vous vous réveillez, vous marchez, vous mangez, vous faites tout ce que vous voulez. Faites de votre vie tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez jamais une chose, que votre vie soit productive. Dieu a horreur des gens qui ne servent à rien. C'est ce qui explique la pauvreté. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, il y aura toujours des pauvres avec vous. Parce que certains aujourd'hui se plaignent à dire, ou se plaisent plutôt à dire, oui mais si Dieu était Dieu, il n'y aurait pas des pauvres, il n'y aurait pas des malheureux. Il y a une réalité que les gens devraient comprendre à partir d'aujourd'hui. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Dieu est celui qui a créé l'univers. Et la Bible présente Dieu comme étant celui qui a l'or et l'argent. Quand vous voyez la manière dont Dieu a façonné la terre, la Bible démontre à suffisance que tout ce que Dieu a créé avait un objectif précis pour l'homme, le mettre à l'aise. Donc si l'homme est pauvre, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est parce qu'il a refusé d'être productif. Il a refusé de servir à quelque chose. Une femme qui souffre dans un mariage et qui n'obtient rien de son mari, c'est de sa faute. Ce n'est pas de la faute de son partenaire, c'est parce qu'elle a refusé de produire. Un mari qui passe son temps à vivre aux dépens de sa femme, s'il est comme ça, ce n'est pas une affaire de malédiction. Il a refusé d'être utile. Si vous naissez pauvre et que vous mourrez pauvre, ce n'est pas la faute de l'État, ce n'est pas la faute de X ou Y, c'est de votre faute. Vous avez refusé d'être utile. Parce que la Bible est claire, tout travail procure l'abondance. La Bible ne dit pas,
Tout travail procure le juste assez.
La Bible dit, procure l'abondance. Et quand on parle d'abondance, c'est véritablement de l'abondance. Ça veut dire beaucoup. Donc, quel que soit le travail que vous faites, quel que soit le niveau dans lequel le monde l'a situé, Dieu vous l'a donné pour vous procurer de l'abondance. Et si vous ne savez pas l'utiliser, votre pauvreté dépend de vous. Votre satisfaction dépend de vous. Parce que quand on parle d'abondance, on parle aussi de satisfaction. Donc personne aujourd'hui ne pourrait dire qu'avec 50 000, il ne peut pas vivre heureux. Et vous savez pourquoi vous ne vivez pas heureux? C'est simplement parce que vous ne savez pas gérer le peu que vous avez. Vous n'avez aucun objectif précis. Et donc vous utilisez l'argent là n'importe comment. Et par conséquent, vous n'obtiendrez rien. Il fut un temps où je pleurais et je disais, Seigneur, j'ai besoin de beaucoup plus de finances parce que je veux faire telle ou telle chose. Je veux atteindre tel ou tel objectif. Et je passais mon temps à pleurer. Je disais, ah Seigneur, Seigneur, je voulais travailler, Seigneur. Je voulais faire telle chose. Mais tu m'as dit, non, je serai pour toi ton héritage. Et j'ai dit à Dieu, l'affaire de l'héritage, là, c'est compliqué. Là où c'est toi qui es mon héritage, là, j'ai l'impression qu'il y a les comptes-gouttes. Quand le travail et l'héritage des autres, on a l'impression qu'ils sont heureux et épanouis. Dieu m'a dit, tu apprendras à faire la différence plus tard, mais pas aujourd'hui. Mais il m'a dit une chose, Patricia, ce que tu as entre tes mains suffit. Moi, l'Éternel, je sais ce que je mets entre les mains de mes enfants. Et je sais que chaque montant mis entre la main de chacun de mes enfants est suffisant pour lui permettre de vivre dans l'abondance. Alors j'étais choquée. J'ai dit, toi tu parles d'abondance avec ce que tu me montres? Il dit oui. Il dit, quels sont tes objectifs? J'ai dit, mais Seigneur, avec un tel montant pour la popote et pour essayer de varier, je fais comment? Il dit, mais sois assez intelligente. Il me dit, tu as l'impression d'être pauvre parce que chaque fois que tu fais les courses, tu n'achètes exactement que la même chose. Il dit, mais reprends cet argent et regarde autrement. Prends le même argent et regarde les prix. Change, tu te rendras compte qu'avec le même argent de la popote, tu mangeras la même nourriture que n'importe qui, quelle que soit sa bourse. Je dis là, je vais faire cette expérience. Alors j'ai commencé, je me suis dit je recommence à zéro. À partir de ce mois, j'achète exactement ce que j'ai l'habitude d'acheter. Je veux voir à quoi ça correspond, je l'ai fait. Le mois suivant, j'ai hanté ce que j'ai l'habitude d'acheter, j'ai pris autre chose. Exactement le même montant. Et j'ai dit à Dieu, j'ai besoin que tu me diriges. Chaque fois que je faisais les courses, et c'est pourquoi souvent j'ai l'habitude de dire, vous savez, le Saint-Esprit qui nous a été donné n'est pas là pour meubler nos cœurs. Et alors, chaque fois que j'allais faire les courses, il me dit, le mois dernier, tu as fait ça. Tu as acheté tel type de poisson, change de poisson. Parce que toi, dans ta norme, tu dis, c'est le poisson. Non, le poisson n'est pas le poisson. Chaque poisson à son type de vitamine. Et chaque poisson a son goût. La carpe n'a pas le même goût qu'un maquereau. Et le maquereau n'a pas le goût d'un mâchoiron. Mais pourtant, c'est du poisson. Si ce mois-ci, tu achètes du mulet, le mois prochain, achète du capitaine, et le mois sur prochain, achète de la sole. Tu verras que tu mangeras du poisson, mais avec de diverses variétés. Tu n'es pas différente de quelqu'un qui aurait eu peut-être 10 millions, qui t'aurait fait un marché de 400 000, parce qu'il ne mangera pas les trois poissons en même temps, il les mangera à des moments différents. Amen. Je dis, oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Parce que la culture nous dit, il faut avoir beaucoup pour réussir. Si on décide de construire une maison, et j'avais été marqué par un frère dont je tairai les noms par discrétion, il bâtissait une maison. 10 ans durant, il a bâti une de ses villas. Et 10 ans durant, il a dit à ses enfants, il y a un objectif, je n'ai pas grand-chose. Mais je veux vous offrir le meilleur, c'est la seule chose que je puisse vous offrir. Vous n'êtes pas nombreux, je n'ai pas eu la grâce d'avoir beaucoup d'enfants, vous n'êtes que 2 ou 3. Alors j'aimerais que dans cette maison, chacun ait sa chambre. Chacun se sente à l'aise. Qu'on ait un espace où on vit. Et tout. Ça a pris 10 ans, hein. 10 ans durant, il s'est assis, il a dit à ses enfants, pendant 10 ans, il y a des sacrifices que nous allons faire. Il a dit, le mois prochain, ce sera le beurre qui va sauter. Et ensuite, ce sera la confiture. Parce qu'il a fait progressivement pour que les enfants ne se rendent pas. Quand ils sentent que ça commence à aller mal, ils réintroduisent un peu de beurre. Mais plus le beurre en plaque. Ils choisissent un autre type de beurre qui a bon goût, qui a des bonnes qualités, oui, nutritives, et ils le remplacent. Mais les enfants avaient toujours du beurre. Mais ça a pris combien de temps? 10 ans. Et quand ils sont rentrés dans cette très belle villa, pour vous, de prime abord, quand vous allez voir, vous dites, oh, il a du pognon. Il a eu du pognon, oui. Parce qu'il a compris une chose. Ce n'est pas la quantité d'argent qui nous permet d'atteindre un objectif. C'est la sagesse. Donc, si on n'est pas capable de produire, c'est parce qu'on a refusé de produire. Si on n'est pas capable d'atteindre les objectifs, c'est parce qu'on a refusé d'être utile à soi d'abord, avant d'être utile aux autres. Donc, il faut qu'on arrête de dire que mes malheurs sont dus aux autres. Dieu est très clair. Et soyons sérieux, Dieu a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu crée répond à la loi de la reproduction. Donc, tout ce que Dieu a créé a la capacité d'engendrer. Vous pouvez tout raconter, tout. Vous allez dire, en jetant des vêtements, les vêtements ne vont pas s'engendrer eux-mêmes. Oh, mais les vêtements, vous allez les jeter quelque part. Quand ils vont pourrir, ils vous serviront pour la culture. Vous allez les jeter, on va reprendre les mêmes sachets-là pour faire du sachet recyclé. C'est encore, ce n'est pas compris chez nous, mais c'est tout de même une réalité. Oh, les feuilles de bananier et tout le reste là. Mais on va prendre ça pour faire de l'humus, pour la culture. Au lieu de passer notre temps à faire de l'agriculture de brûlis. Simplement parce qu'on n'a pas compris que tout existe pour se reproduire. Regardez bien la chaîne alimentaire. Regardez bien l'environnement. Vous allez vous rendre compte que tout sert à quelque chose. Et tout sert à engendrer quelque chose. Donc, ne dites pas que si je suis là, et je suis dans cette situation, c'est de la faute de X ou d'Y. C'est de votre faute. Ce n'est même pas toujours de la faute de l'État. Parce qu'il y a une chose qui me traumatise, excusez-moi si j'en parle souvent, c'est l'affaire des poubelles. Au village, vous ne trouverez pas les poubelles affreuses que l'on voit à Libreville. À Libreville, les soi-disant citadins, hommes modernes, gens qui reflètent la modernité, qui reflètent le niveau de vie le plus grave. Les gens vivant avec le net le plus ultra, ce sont eux avec qui on voit qu'ils résident avec les rats, qui ne sont même plus des rats, qui ont quitté la dimension de rats pour devenir des chatons à cause du degré d'insalubrité de Libreville. Vous allez me dire que les villageois qui soi-disant ont une mentalité ignoble sont les plus terribles? Non, je vous assure, asseyez-vous bien, mais c'est vous les plus ignobles. Vous avez déjà vu un villageois se pointer devant la télévision pour dire « On demande à l'État de venir nous enlever les ordures. » Vous avez vu déjà au village des gens qui peuvent construire à côté d'une eau usée et qui vivent là, attendant que l'État ou le ministre des Travaux publics vienne le leur faire. Si vous mourrez là, c'est parce que vous avez refusé d'être utile. Arrêtez d'embêter le gouvernement. Il y a des choses que vous pouvez changer. Que vous n'allez pas accepter d'être utile, vous n'allez rien voir. C'est nous qui créons notre utilité. Et notre utilité va nous amener à engendrer des choses qui vont répondre à nos besoins. Mais si on s'assoit et on dort, on ne s'en sortira pas. Et on continuera à développer la mentalité de mendiant et de pauvre. Nous demandons, vous n'êtes pas fatigué de montrer vos mains? Oh, l'État n'a qu'à venir faire quelque chose, nous sommes dans l'eau. Quand tu es venu et que tu as visité le terrain, tu ne t'es pas rendu compte qu'il était marécageux? Elle a dit, on n'a pas besoin d'appeler un architecte, ou je ne sais pas trop quoi. Mais même nous-mêmes, dans la logique, on sait que quand il y a un terrain marécageux, s'il pleut sérieusement, ça peut nous arriver. Alors cette logique-là, même celle-là, on l'a enlevée. On a banni l'utilité même de la réflexion. C'est pourquoi on pleure avec des maisons qui s'inondent. C'est marécage. Pourquoi tu vas trouver? Oh, au nom du terrain, ah, j'ai trouvé ma petite parcelle. Pourquoi? Pour prouver que tu as une parcelle, ça ne veut rien dire. Puisque la preuve, c'est que tu pleures et personne n'a envie de ta parcelle. C'est que le problème, c'est que tu vas faire un investissement à perte. Parce que même si tu vends l'environnement, qui va accepter? On sait que toi-même, tu t'inondes. Qui va faire un investissement pareil? Personne. Et après, tu diras, je suis maudit. Tu n'es pas maudit. Tu es inutile. Tu as banni de ta vie le sens de la réflexion. Alors, tu es devenu inutile et incapable de régler ton problème.
la logique voudrait que tu détruises ta propre maison. Tu essaies de conserver le maximum de planches que tu peux. Les tôles, tu cherches ailleurs et tu te plantes toi-même. Là, on n'a pas besoin de l'État. Dieu n'aime pas l'improductivité. Parce que toute chose a été suscitée pour produire, pour engendrer. Qu'est-ce qu'on entend par engendrer? Qu'est-ce qu'on entend par produire? Produire, comme je l'ai dit, c'est engendrer. Produire, c'est fabriquer. Produire, c'est façonner. Oh, ma maison n'est pas belle. Il y a une publicité qui me marque. C'est une publicité de légumes. C'est deux femmes qui se retrouvent. Et une des femmes dit, j'aime bien ta façon de faire telle chose, j'aime bien ta façon de faire telle chose. Et même quand tu chauffes les carottes, elles sont très bonnes. Et l'autre lui dit, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Blonduel qui a mis les carottes dans la boîte. Je n'ai simplement fait que réchauffer. Elle dit, même en réchauffant. Vous voyez sa mentalité. Tout ce que tu fais bien, même quand l'autre lui dit, ce n'est pas moi. Les légumes sont déjà dans la boîte. J'ai simplement réchauffé. Elle ose quand même dire, même quand tu chauffes, elle refuse d'être productive. Produire, c'est engendrer. Produire, c'est occasionner. Créer des occasions. Créer des opportunités pour atteindre un objectif. Produire, c'est provoquer. C'est-à-dire, nous devons provoquer des événements qui feront en sorte que le but que nous voulons atteindre soit atteint. Mais si on est assis, on provoque comment? Produire, c'est fournir. Produire, c'est cultiver. Voilà ce que Dieu attend de nous. Et d'ailleurs, il nous l'a dit en Genèse 1. Il nous l'a dit. Alléluia. Genèse 1, 24 à 25. La Bible dit, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Donc Dieu dit à la terre, à partir d'aujourd'hui où tu es conçu, tu as la responsabilité d'engendrer des êtres vivants. Ça veut dire que chaque fois qu'un éléphant va mourir, ce ne sera pas à Dieu de descendre et de dire qu'un éléphant naisse. Et la Bible dit, l'éléphant est né. Que là qu'une chèvre est tuée avec tous les bœufs que nous mangeons, il allait se pointer tous les jours pour dire « bœuf, sois !» et le bœuf viendrait. Dieu n'est pas fou. Il sait que vraiment c'est un problème difficile. C'est un travail qui va lui demander vraiment beaucoup d'efforts et je ne pense pas qu'il aura encore le temps de fermer un œil. Chaque fois qu'un homme serait mort, il serait en train de dire « homme, sois !» et l'homme naîtrait. Non. Dieu a compris que c'est plus facile de mettre en chacune des espèces créées la capacité de s'engendrer. Pour qu'ils ne descendent plus pour dire que la terre soit et la terre est. C'est pourquoi il dit que la terre produise des êtres vivants. Donc il a créé, puis il dit, moi je vais engendrer, c'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, ta raison d'être, l'objectif de ta vie, la raison de ton existence sera que tant que tu t'appelles terre, tu as la responsabilité d'engendrer des êtres vivants. Pourquoi? Pour qu'ils répondent à la satisfaction d'Adam et Ève. Mais la Bible explique tout au verset 25, quand il dit, Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Il vit que cela était bon. Donc quand il crée, il dit. Et quand il dit, c'est pour un but. Et nous l'avons vu. Au verset 27 et 28, la Bible dit, et là nous allons le lire dans la version Le Semeur, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Et le verset 28 dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Ça veut dire quoi? Quand Dieu crée toute chose, il crée aussi la loi de la reproduction. Et là, nous allons comprendre une chose. Dieu crée. La Bible dit, dans certaines versions, dit, Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, quand Dieu s'est assis avec Jésus et le Saint-Esprit, ils ont réfléchi et ils ont dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon la version originale que tout le monde utilise, ou encore la version la plus courante. Ça veut dire quoi?
Dieu se lève un beau matin après avoir mûrement réfléchi et il dit, à compter de ce jour, je vais engendrer ma propre espèce. Donc quand Dieu dit, il nous a créés, c'est pour que nous engendrons la même espèce. Nous sommes l'espèce qui représente Dieu. J'arrive, je n'ai fait que commencer. Dieu dit, faisons. Donc, Dieu nous produit. Nous sommes le produit de Dieu. En étant engendré, en étant produit, en étant fait, l'homme devient le produit de Dieu. Donc, l'homme est un fruit divin qui aura maintenant à son tour un objectif, le même, engendrer la même espèce. Alléluia. Vous êtes le fruit de Dieu. Vous êtes son espèce. La preuve, c'est que quand vous parlez, vous engendrez. Ce que vous faites, les animaux ne sont pas capables de le faire. Votre niveau de réflexion n'est pas semblable à celui d'un animal. Aucun animal ne peut construire une maison. Vous savez, j'ai deux chiens à la maison. Et je m'amuse souvent à les embêter. Le tout petit, il aime pisser partout. Donc, vous savez, on éduque. Et puis, je lui ai dit, le jour où tu vas pisser, je crois qu'avec tes quatre pattes, tu apprendras à passer une serpillière. Et Dieu m'interpelle, il dit, tu es sûr qu'il pourra le faire avec quatre pattes? Il me dit, il n'y a que les hommes qui ont cette capacité à passer la serpillière. Avec quatre pattes, comment il le fera? Puis j'ai dit, c'est vrai. Il dit, mais ce jour-là, moi-même, je le fais. Il dit, mais quand tu vas le prendre, tu vas mettre la serpillière à ses quatre pattes et puis tu vas le balader comme un balai brosse. Finalement, c'est toi qui le feras. Ce n'est pas lui. Lui, il trouvera en cela un jeu. Et dorénavant, il prendra ta serpillière pour un jeu. C'est logique. Il n'y a que nous qui avons la capacité de passer les serpillères, de construire des maisons, de créer des aliments, parce que même ces animaux-là, c'est nous qui les nourrissons, parce que nous créons des aliments pour eux. Même l'ordinateur, c'est nous qui le créons. Et l'ordinateur ne fait que nous envoyer l'image que nous lui avons inculquée dans sa mémoire. Nous sommes le fruit du Seigneur. Et nous avons donc la responsabilité, nous aussi, de porter du fruit. C'est pourquoi Dieu s'énerve. Excusez-moi l'expression. C'est pourquoi Dieu se met en colère. C'est pourquoi Dieu a horreur des paresseux. Parce que la paresse est le symbole de l'inutilité. Comment tu peux te lever le matin? Tu ne peux même pas prendre la peine d'acheter un bout de pain. Même si tu es logé, nourri, blanchi.
Pour la suite de ce message, veuillez insérer le CD numéro 2.